franceinter.fr. Salut les amis de la Cosmopolitaine, un partenariat France Inter et le mensuel Transfuge qui fête la 10e année de son existence. Waouh ! La rédactrice en chef Oriane Joncourt viendra nous raconter comment le mensuel célèbre cet heureux événement. Cette émission, vous le savez, est chroniquée par Marie-Madeleine Rigopoulos et Laurent Bourdon, réalisé par Michel Soulier, Stéphane Ronxin et Julien Dumont, préparé par la merveilleuse et indispensable Fanny Leroy et musiqué par Jean-Baptiste Audibert.
Cosmopolite. Cosmopolitaine.
Je m'appelle Francis Ford Coppola.
Daniel Meyer. Valérie Guermoigno.
Tati Rosenthal.
Patrick Chamoiseau.
Chirine Dreves.
Je suis l'invité de Cosmopolitaine.
Paula Jacques.
Je m'appelle Whit Stillman et je suis l'invité de Cosmopolitan.
Whit Stillman, Lady Suzanne, l'héroïne de Love and Friendship, le dernier film de Whit Stillman, Lady Suzanne est une femme très dangereuse. Jeune veuve joyeuse, elle a peut-être précipité la mort de son vieil époux. Lady Suzanne doit se mettre en quête d'un mari riche et manipulable si possible. Ne faisant fi d'aucun stratagème, la machiavélique Lady Suzanne va, ce faisant, lever le voile sur l'hypocrisie, le puritanisme et le matérialisme du marché matrimonial dans l'Angleterre de la reine Victoria. En portant à l'écran ce court roman de jeunesse de Jane Austen, Whit Stillman signe un petit bijou d'élégance et de causticité, on pense bien sûr aux liaisons dangereuses. Love and Friendship sera sur les écrans le 22 juin, mais c'est aujourd'hui même que Whit Stillman nous en parle dans la seconde partie de cette Cosmopolitaine. Tout de suite, une autre femme dangereuse, dangereusement en retard. Du reste, bonjour Marion Van Rettergelm.
Bonjour Paula.
Vous êtes l'auteur avec Lubna Abidar de ce livre tout à fait extraordinaire, La Dangereuse, qui vient de paraître chez Stock. La Dangereuse, c'est la vie, le parcours, l'agonie d'enfance de Lubna Abidar, que vous avez recueilli. Vous en avez fait un livre passionnant. Alors Lubna, on l'attend. On ne sait pas si elle va arriver. C'est un dommage collatéral des grèves. Elle est retenue quelque part. On continue à l'attendre, Marion. Hein ?
On l'attend.
D'accord. Alors, ce livre, je vous avoue, je savais que Lubna Abidar est un personnage merveilleux puisque on l'a portée au nu dans ce film de
Nabil Ayouch.
Nabil Ayouch, dont on a parlé. Elle interprétait magnifiquement un rôle de prostituée.
Match Love.
Et je me suis dit bon, c'est un bouquin circonstanciel parce qu'elle a eu beaucoup de problèmes à la suite de ce bouquin. Et pas du tout. Vous avez suivi cette histoire. Vous nous avez retracé son affaire d'une manière tellement extraordinaire, sans jamais vous mettre en scène. Vous auriez pu dire moi. Européenne, française, je suis horrifiée, je suis scandalisée. Pas du tout, c'est une tragédie quotidienne qui se lit, comme ça, très vite. Alors, une petite idée, est-ce que c'est un choix mercantile? Est-ce que Stock vous a dit, voilà un personnage qui fait l'actu, allez, fais-nous un livre là-dessus?
Un petit peu, pour être honnête, c'est vrai que c'est l'éditeur qui m'a contacté et qui m'a fait la proposition de rencontrer Lubna. J'avoue que je n'ai pas hésité une seconde en entendant son nom parce que c'est quelqu'un qui suscitait mon admiration. J'aime les femmes courageuses, les hommes aussi un peu, mais disons que les femmes courageuses ont d'autant plus de mérite. Et celle-ci est au-delà du courage. J'avais suivi ce qui lui était arrivé, donc l'agression dont elle avait été victime après avoir simplement osé incarner une prostituée dans un film. Et je trouvais que donc elle avait été d'un courage inouï et de tourner ce film et de prendre la parole, de persister dans sa liberté et dans sa manière d'être une femme par la suite. Et elle est devenue donc un symbole, je pense un symbole dont on a énormément besoin, de plus en plus, où le sentiment religieux prend des formes intégristes et récupérées politiquement. Elle est un symbole qui vaut beaucoup plus que tous les débats dont on adore, dont on est très friand en France sur porter le voile, ne pas porter le voile, interdire ci et ça. Je pense que par son exemplarité, par son existence même, une femme comme Lubna Abidar est essentielle.
Marion Van Rettergelm, vous êtes journaliste, grand reporter au Monde. Et là, donc, vous interrogez cette personne, vous l'interrogez sur un cas précis, c'est-à-dire l'actualité, comment est-ce qu'elle a elle aurait pu être victime, mourir sous les coups des islamistes, mais en même temps, vous nous découvrez un personnage qui s'est exposé depuis toujours.
Tout à fait.
L'histoire de Lubna, depuis son enfance, la description de sa famille, son père, est quelque chose de tellement inouï. On a beau croire savoir des choses sur la façon dont les femmes dans le monde musulman sont opprimées, les petites filles, mais là, vraiment, on a l'impression d'un témoignage jamais entendu. Alors moi, je voulais vous poser la question. C'est tellement douloureux ce qu'elle vous raconte. Comment faites-vous pour réagir? Parce qu'il y a une telle douleur. Est-ce qu'elle pleure quand elle vous raconte tout ça? Et vous, est-ce que vous pleurez?
Je ne pleure pas. C'est un peu mon métier parfois. J'ai un peu l'habitude d'écouter des histoires terribles. Donc il y a une espèce de filtre qui s'opère et le besoin de transmettre l'emporte sur l'émotivité.
Sur l'émotion.
Oui. Maintenant, elle m'a beaucoup aidée à cela aussi parce que par son courage et par son humour qu'elle garde, c'est quelqu'un qui a énormément d'élégance, qui est capable de rire. On a beaucoup ri ensemble. Et elle était plutôt, disons que quand les épisodes qui la gênaient, c'était pas tellement les pleurs qui l'arrêtaient, quoi qu'il y en a eu un peu, mais bizarrement plutôt à la relecture, quand je lui ai relu le livre à voix haute, elle s'est mise à pleurer sur elle-même, là, parce que tout d'un coup, elle avait la vie face à elle. Mais parfois, elle avait des réactions d'agacement, et notamment les passages qui lui étaient difficiles, comme le récit de son agression. Alors moi, je suis journaliste, je suis un peu enquiquineuse, donc je cherche toujours des détails, donc je fais répéter. Elle disait, mais je te l'ai déjà dit, ça l'agaçait de revenir là-dessus. Je dis, non, mais j'ai besoin de savoir, la voiture, elle roulait dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Tu étais de quel côté du trottoir? Elle disait, mais on s'en fiche. Je dis, non, on s'en fiche pas, les détails, ça compte. Donc ça l'agaçait énormément, elle n'avait pas envie de revivre ces moments. Là. Ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est que je l'ai accompagnée à Marrakech, presque clandestinement, parce qu'elle se cache à Marrakech, elle se déguise, elle met une perruque, elle met des lunettes.
Elle met même quelquefois la burqa.
Alors elle a mis la burqa, elle avait fini parce qu'elle ne supporte pas
le monde, comment les filles font. Sinon, elle serait lapidée dans les rues.
Elle ne serait pas lapidée, mais disons qu'elle risque toujours d'être agressée, même à Paris, elle risque toujours d'être agressée par un dingue. Elle redoute, il y a évidemment la menace, et il y a aussi le regard des gens. Elle en a marre qu'on la reconnaisse et qu'on chuchote en la regardant, etc. Mais donc, j'ai passé du temps avec elle à Marrakech, et surtout, nous sommes allés au hammam. Et le hammam, ça a une particularité, c'est qu'on est nus. Et cette nudité, on s'est retrouvés toutes les deux sous les seaux d'eau, etc., avec les masseuses et les gratteuses. On s'est retrouvés toutes nues côte à côte, en parlant, et ça a donné une intimité encore plus forte à celle qu'on avait déjà acquise. Et j'ai vu ce corps plein de cicatrices. Et là, on s'est mis à parler de ces cicatrices, d'où elles venaient. Et il y a des choses qu'elle ne voulait pas me dire et que j'ai réussi à force d'insistance, qu'elle ne voulait pas qu'on écrive non plus, notamment la cicatrice la plus importante qui n'est pas visible. Oui. Elle disait, celle-ci, je ne veux pas qu'on en parle. Oui. Et j'ai réussi à la convaincre. Oui. Dieu merci.
Parce qu'au fond, le martyr des femmes, des filles, en pays arabe, quelquefois, ça commence dans la toute petite enfance. Alors, La Dangereuse, c'est un livre qu'a lu pour nous Marie-Madeleine Grigopoulos, qui n'est pas là non plus, décidément. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Enfin, on va en tout cas écouter sa chronique. Et puis après, si Lubna n'est toujours pas arrivée, on va essayer de la joindre au téléphone. D'accord ? D'accord.
Aujourd'hui, j'ai eu une pensée pour ma mère. Je voulais absolument te donner le prénom d'une pécheresse, m'avait-elle dit. Cléopâtre, Ève, j'ai hésité, j'ai finalement choisi Marie-Madeleine. Pourquoi une pécheresse ? Lui avais-je demandé perplexe. Son visage s'était alors illuminé d'un grand sourire. Elle m'avait regardé droit dans les yeux et m'avait dit « Car ma fille, depuis la nuit des temps, les femmes libres sont considérées comme des pécheresses. Et si c'est le prix à payer, c'est ce que je veux que tu sois. » En lisant le livre de Lubna Abidar et de Marion van Rentergem, je n'ai pu m'empêcher de me remémorer cette histoire. Parce que moi qui porte avec fierté le doux prénom d'une des plus célèbres catins, mon cœur vibre à la lecture du combat d'une femme qui aura payé le prix fort pour le simple droit d'exister en tant qu'individu, puis pour le droit d'exercer un des plus beaux métiers du monde, celui d'actrice. Actrice pour construire du rêve là où la réalité tue, actrice pour disposer de son corps, actrice pour décider qui elle est, actrice pour raconter le monde. Il était une fois une toute petite fille qui aurait dû être un garçon. Il était une fois une petite fille née dans un monde où ses semblables étaient voués à servir et obéir aux hommes. Une petite fille dont le père battait la mère qui travaillait dur pour l'entretenir. Une petite fille qui mangeait des coups tout en rêvant de cinéma. Le cinéma, ce lieu magique où ne s'exhibent que les putes. Les putes, c'est ainsi qu'on les appelle, ces belles actrices qui crèvent l'écran. Ces grandes amoureuses aux longs cheveux, aux yeux de biche. Et c'est ainsi que les nomme la grand-mère, pourtant aimante et heureuse en ménage. C'est ainsi que les appelle tout le monde autour de la jeune Loubna. Alors Loubna l'a décidé. Un jour, elle en sera une aussi, elle, de pute. Il paraît que les mots tuent. Loubna leur a tordu le cou pour s'en faire une parure. Elle n'a que 14 ans lorsqu'elle trouve le courage de mettre à la porte de leur foyer cet homme qui n'a de père que le nom, mettant ainsi à l'abri sa mère et ses jeunes frères et sœurs des coups et des humiliations, mais aide également sa mère à monter une affaire pour que l'argent ne manque plus. Vient alors le temps de trouver sa propre voie. D'abord à travers la danse orientale, si expressive, si sensuelle. La jeune femme y trouve un exutoire pour son corps maltraité, marqué de brûlures de cigarettes et d'entailles. Des entailles visibles, mais aussi invisibles, les pires, celles dont on ne parle pas. Puis vient le théâtre, la télévision et le cinéma. Jusqu'à la grande rencontre avec Nabil Ayouch qui lui donnera son plus beau rôle, celui de Noah, la magnifique prostituée du film Much Loved. On aura beaucoup reproché à Loubna sa nudité dans ce film, au point de la frapper et de la menacer de mort. Il est probable que ce qu'on lui reproche le plus, c'est d'avoir dévoilé son âme.
Je veux être une pute, comme dans les films que je vois à la télé. Je veux être belle, comme les putes. Je veux danser, comme les putes. Je veux faire du cinéma, comme les putes. Je veux être habillée et maquillée et bien coiffée, comme les putes. Je veux conduire des voitures, comme les putes. Être une femme libre, comme les putes. Loubna Bidar, Loubna Bidar, bonjour, vous êtes au téléphone ?
Bonjour.
Bon, oui. Vous avez reconnu... C'est ce passage écrit avec Marion Van Rintergen, page 49.
Oui.
C'est un passage très fort. Vous êtes une toute petite fille. Vous avez 6-7 ans. Vous ne savez pas que les actrices qu'on appelle à la télé des putes ne sont pas des putes. Vous pensez que ce sont des artistes. Et à 6 ans, vous décidez que vous voulez être une pute comme ces belles femmes à la télé. C'est très tôt quand même pour une vocation, non ?
Oui, mais malheureusement, il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, pour elles, les actrices, elles sont des putes. Dans le monde arabe, on les voit comme ça. Et moi, j'avais beaucoup de questions pour Dieu. Quand ma grand-mère, elle me disait, elles sont des putes qui vont aller à l'enfer, j'ai toujours dit, c'est pas possible, des femmes aussi belles, aussi libres, elles vont être à l'enfer. Et c'est mes questions avec là-haut et avec Dieu qui m'a laissé rêver et arriver à réaliser mon rêve.
Loubna Bidar, déjà toute petite fille, vous étiez en enfer dans cette famille avec ce père dont on ne comprend pas qu'il soit si mauvais, si méchant, si violent envers vous. Il bat sa femme, mais il vous bat aussi pour le moindre prétexte. Alors je me suis posé la question parce qu'on dit toujours que les adultes qui exercent des violences sur leurs enfants, c'est qu'eux-mêmes ont subi ces violences. Mais par ailleurs, il y a un autre élément, c'est que votre père, vous insistez beaucoup là-dessus, il n'est pas arabe, il est abizar, c'est ça ?
Amazir,
pardon, vous savez, je suis un peu dyslexique. Il est amazir, c'est-à-dire que c'est un berbère. Et que les berbères sont considérés par les arabes comme une sous-espèce. Donc je me suis posé la question, votre père qui est humilié, rejeté, blessé tous les jours dans sa dignité d'homme, au fond, son seul pouvoir, sa seule façon de se rehausser dans sa propre estime, c'est de torturer les êtres qui dépendent de lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, tout à fait d'accord. Et je confirme qu'aujourd'hui au Maroc, il y en a beaucoup comme mon père et ça existe beaucoup comme mon père. C'est pas la politique, c'est pas le gouvernement qui peut changer ça, mais c'est vraiment le nouveau islam. Et tout le droit que ces hommes ils ont trouvé à le nom d'Allah pour donner le pouvoir à faire tout ça.
Et vous nous montrez aussi dans ce livre, Loubna Bidar, que votre martyr, votre enfance, ce n'est pas du tout un cas unique. Vous nous dites, dans ce film que vous avez tourné avec Nabil Ayouch, avec toutes ces vraies prostituées, parce que Nabil Ayouch a été recherché des professionnels, en quelque sorte, sur le terrain, elle vous raconte toutes des histoires de petites filles martyrisées, violées par un oncle, par un père, comme si la malédiction d'être une fille... était inscrite d'avance dans le destin des filles.
Oui, tout à fait d'accord. C'est presque, j'exagère pas, mais presque 90% des prostituées qu'on a rencontrées, elles étaient violées à la maison avant de sortir dans la rue. Et ça, malheureusement, et c'est pas seulement au Maroc, dans le monde de l'islam en général, il y a beaucoup ça et on n'ose pas parler. Et quand une petite fille parle, tout le monde contre elle, la famille, le voisinage, la loi, la religion, tout contre elle, c'est comme si c'était elle la coupable.
Loubna Bidar, je voulais vous demander comment vous faites, comment vous avez fait pour être si forte, pour tenir, parce que selon moi, j'en ai parlé avec Marion, vous auriez dû être morte 1000 fois avant qu'on vous agresse à cause de ce film.
Oui, c'était très difficile au début. J'ai décidé de me suicider une ou deux fois, comme ça, toute seule. J'ai réfléchi. Mais la force, elle vient de ma fille. J'aime beaucoup la vie. Et j'ai décidé à un moment, au milieu de tout le mal que je sentis, j'ai vécu, j'ai décidé de retourner ça en force et de leur montrer que, voilà, je suis une femme qui ne fait mal à personne. Seulement, je parle, je dis qu'est-ce que je pense. J'ai dévoilé une vérité qui fait mal dans le monde arabe et le monde islamiste. Ça veut dire que je suis la forte. Et si aujourd'hui, tout le monde il me déteste dans le monde arabe et surtout au Maroc, je suis sûre d'ici 20 ans ou 25 ans, ça va tout changer. Ils vont connaître la vérité.
Quand vous revenez, effectivement, après avoir remporté des prix d'interprétation pour ce rôle, dans Much Love, votre mère, qui a très honte de vous, parce que vous passez à la télévision, parce que vous jouez le rôle d'une prostituée, parce qu'on l'insulte, elle, la mère d'une pute, en quelque sorte, votre mère et votre famille vous accueillent. Vous êtes tout d'un coup... Vous vous réconciliez parce que vous avez acquis quelque chose, une reconnaissance extérieure. Mais quand même, je me posais la question, Loubna Bidar, maintenant vous êtes une femme libre, vous assumez la liberté avec ses avantages et tous ses inconvénients, et même, je dirais, ses dangers en ce qui vous concerne, parce que vous n'êtes pas à l'abri. Et je vais vous demander, est-ce que c'est un prix trop lourd à payer? Parce que vous nous montrez constamment, dans ce livre, dans ce récit, que lorsque vous parlez avec les autres filles de votre âge au Maroc, elles vous disent toutes que leur rêve, c'est d'être tranquille, d'avoir un mari riche, et pas de vagues, surtout. Est-ce que vous pensez que la liberté est un prix très dur à payer?
Autant comme des femmes arabes, c'est trop difficile et très cher à payer. Vraiment, c'est, il n'y a pas qu'en moi, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui au Maroc qui payent. Certes, les femmes qui sont des lesbiennes, qui ne veulent pas se marier, elles ne peuvent pas dire ça, elles ne peuvent pas décider leur vie, elles supportent des hommes. Il n'y a pas que ça, il y a trop de choses pour être une femme arabe, musulmane et libre, c'est vraiment très difficile.
Loubna Bidar, alors on va arrêter là, on va continuer à parler avec Marion de ce livre que vous avez fait ensemble. Et je voulais juste un petit mot. Qu'est-ce que vous pensez de ce livre, vous? Moi, je le trouve personnellement formidable, mais vous?
Je le trouve formidable, c'est grâce à Marion, parce que si c'était quelqu'un d'autre, il n'aurait jamais écrit de cette façon. C'est vraiment grâce à Marion que j'aime beaucoup, je porte beaucoup d'amour et beaucoup de respect pour cette femme. Et aujourd'hui, c'est pas seulement un livre, elle fait partie de mes copines proches et c'est ma grande sœur que je respecte. Et voilà, c'est un livre merveilleux, je suis très fière d'avoir travaillé avec Marion.
Loubna Bidar, alors je vous dis, prenez soin de vous et j'espère vous revoir très bientôt dans un film. Votre beauté, votre grâce, votre vivacité, vous allez nous manquer, alors revenez vite. Merci Loubna Bidar, ce livre, La Dangereuse, paraît chez Stock. كنت غشتي شانو تغشن من بسادي يزالي عجالي 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 باتشي كنت غشتي شانو تغشن من بسادي يزالي يا هي ترن لاش لوزي يا دهو
Jacques sur France Inter.
Marion Van Attergem, dans ce livre, vous vous recueillez avec beaucoup, beaucoup d'empathie et de finesse, je trouve, les confessions de Lubna Abidar. On découvre déjà une petite fille incroyablement révoltée. D'abord, ce père donc qui se sent comme un paria, qui ne fout rien, qui boit et qui fume toute la journée, et qui oblige sa femme et ses filles à lui rapporter sans arrêt des sous. Et la petite Lubna va d'abord vendre des petites choses sur le marché, puis elle est déjà extrêmement intelligente. Elle monte avec sa mère, elle va faire de sa mère une businesswoman, une petite entreprise où elle va vendre des gâteaux, des choses comme ça pour que ça marche. Hein. Et ça, j'imagine cette petite fille de 12-13 ans accroupie sur les marchés et qui incite sa mère à s'affranchir du père en quelque sorte. Hein.
Tout à fait, mais c'est vrai que la force de Lubna, je pense que ce qu'elle a vécu, quelqu'un de normalement constitué se serait écroulé.
Ah bah absolument.
Et quand elle dit qu'elle a appris à être forte et que c'est par amour de sa fille plus tard qu'elle s'est dit finalement je ne vais pas me suicider, c'est un instinct qu'elle avait eu. D'abord, elle a une intelligence exceptionnelle, elle a un regard d'une lucidité extraordinaire sur les choses, sur les êtres, et cette force qu'elle avait en elle, elle l'a acquise très très tôt. Et donc on est passé un peu vite sur le père, et c'est vrai qu'on a fait exprès dans le livre de ne dire qu'à mi-mot ce qu'il lui avait fait, mais il lui a quand même fait la pire des horreurs qu'on puisse faire à une petite fille et à une femme, enfin qu'un père puisse faire à sa fille. Et ça, c'est fait partie des choses que Lubna m'avait dit, ça on n'en parle pas. Et je me suis dit, si on ne parle pas de ça, le livre n'a pas de sens, parce que le viol d'un père sur un enfant, pour dire les choses comme elles sont, c'est au cœur de l'hypocrisie de toute une société où on fait de la virginité des femmes une valeur suprême, où on les oblige à ne pas aller au mariage sans être vierge, etc., où on fait toute une des salamanèques avec ça, moyennant quoi elles sont toutes violées en famille parce que la frustration sexuelle du coup est quasiment organisée dans les familles.
Et donc ensuite je pense on recoule l'hymen
son histoire
et on recoule l'hymen des filles qu'on veut marier.
Un commerce de chirurgie de l'hymen. Enfin, et tout cet art du mensonge et de l'hypocrisie est quand même la clé d'explication de ces sociétés profondément obscurantistes. Alors l'islamisme s'est rajouté là-dessus et l'a exploité politiquement. Et je pense qu'elle a très intelligemment et tout de suite obtempéré sur le fait qu'il fallait en effet dire ces choses.
Et alors ce qui est admirable, c'est comment cette petite fille battue, opprimée, méprisée, comment est-ce qu'elle va tout d'un coup se parer des qualités masculines en ayant la force, elle a quoi, 15 ans, de virer son père, de le virer physiquement, de le prendre par les épaules et de le jeter dehors.
Oui, sa mère est terrorisée, assiste à la scène. Alors, quand on était à Marrakech, dans l'appartement de sa mère, qui n'a pas bougé, elle a refait la scène devant moi et devant sa mère, qui encore allait maintenant se prenait la tête dans les mains en disant « mon Dieu », et elle riait un peu, et elle riait nerveusement, mais elle revivait la peur qu'elle avait vécue en voyant cette petite gamine de 13 ou 14 ans qui envoyait les oreillers et les couvertures à la tête de son père en disant « maintenant tu te tires et tu vas habiter tout seul sur la terrasse, sur le toit ».
Et dans ce livre aussi, Lubna raconte comment elle a absolument voulu faire le film de Nabila Ayouch, Much Love. Lui ne veut pas d'elle parce qu'il veut engager des prostituées. Elle lui dit mais c'est pareil, moi je danse, je fais la danse du voile à la télé, je suis comme une prostituée. Il dit non, tu ne sais pas ce que c'est. Alors pour remporter le rôle, qu'est-ce qu'elle va faire ?
Un gros mensonge. Cette fille qui est faite de vérité, qui est la vérité même, qui a vraiment un rapport qui jamais j'ai pu vérifier, parce que là encore une fois, je ne peux pas m'empêcher, j'ai des tics de journaliste, donc je vérifier ce qu'elle me disait en allant confronter ça aux paroles des autres. À chaque fois, j'étais frappée par la précision et la justesse de tout ce qu'elle pouvait raconter. Et cette fille, qui est la vérité même, a commencé sa carrière par un énorme mensonge, parce que Nabila Ayouch, comme il le fait parfois dans ses films, ne voulait pas travailler avec des actrices professionnelles, voulait travailler avec des vraies prostituées. Et elle se dit, mais il n'y a pas de raison, les prostituées, je les connais. J'ai vécu avec elles dans la rue, je les ai vues au hammam, elles m'ont raconté leurs histoires, elles étaient sympas avec moi, personne n'était sympa avec moi, mais elle au moins, elle me faisait des bisous, elle me donnait des bonbons, etc. Je connais toutes leurs histoires. Comme si c'était moi, je vais faire semblant d'être une prostituée. Et là, la scène est assez drôle, c'est qu'elle va voir Nabila Ayouch. Les prostituées qui vont le voir, entendant parler d'un casting, se sont habillées en filles très coquettes, normales, fille des villes bourgeoises. Et elle a cru bon de s'habiller en prostituée, c'est-à-dire de manière complètement caricaturale, avec des mini-jupes et super maquillée. Et du coup, elle dit « j'étais grotesque parce que j'étais complètement à contre-temps ». Mais en même temps, elle est tellement bonne que Nabila Ayouch l'écoute 2 heures et se dit « Waouh, c'est elle.
Et puis surtout, elle va sur le terrain rencontrer des veaux prostituées. Elle va même essayer de se faire embaucher chez une mère maquerelle pour voir comment ça se passe.
Oui,
et
oui.
Puis, au moment où vraiment ça devient dangereux...
Parce que ça devient dangereux assez vite.
Elle se tire. Elle s'en va. Alors, la dangereuse, Lubna Binar, j'espère qu'elle a quand même un grand instinct de conservation. Oui, Laurent, vous voulez dire quelque chose ?
Je peux poser une petite question légère.
Oui,
légère. Tout moi, la légèreté. Oui. Elle a été nominée au César. Et face à Catherine Deneuve, quand même, à Isabelle Huppert, Catherine Fraud, qui est repartie avec la statuette. Comment elle a vécu ça et comment elle a vécu sa petite défaite là, à ce moment-là, finalement ?
Elle est d'un calme olympien. Alors, je me souviens, je l'avais accompagnée. Elle était habillée en Saint-Laurent, très belle, assez masculine, ce jour des Césars. Et elle attendait, évidemment. Mais elle avait vraiment très vite l'intelligence de se dire, bon, de toute façon, le fait d'être nominée, j'ai ma vengeance. Et quand elle ne l'a pas eue, alors moi, j'étais évidemment, comme tous ses proches, on était quand même déçus. Et elle était encore plus intelligente que nous, parce qu'elle a dit tout de suite, si je l'avais eue, ça aurait été trop. Et heureusement que tout n'est pas arrivé en même temps. C'est déjà très bien d'avoir été nominée, mais avoir le César pour un premier film, et après tout ce qui m'est arrivé, ça aurait été trop.
Merci beaucoup, Marion Van Rintergen, pour La Dangereuse, ce livre que vous avez écrit à Lubna Binar, à qui nous souhaitons tout ce qu'il y a de mieux dans la vie désormais. Et puis on l'attend de la revoir sur l'écran. Je dois vous dire, et vous le savez Laurent, que c'est une femme en plus merveilleusement belle. Le livre est paru chez Stock. Merci Marion.
Merci à vous.
Stillman, c'est un grand plaisir de rencontrer l'auteur d'un film qui m'a fait si plaisir à voir, cette adaptation d'un roman de Jane Austen qui s'intitule Love and Friendship. Vous êtes américain, White Stillman. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vous, de votre carrière? Vous êtes né où pour commencer?
Well, I was born in Washington.
Eh bien, je suis né à Washington.
In 1952, my father was working in the Truman administration.
Mon père a travaillé pour le gouvernement Truman.
Then I went to university at Harvard.
Et je suis allé à l'université à Harvard. Et lorsque j'étais là-bas, je voulais écrire comme Scott Fitzgerald, qui était mon héros. Mais en fait, ce que je n'avais pas l'énergie pour la solitude des romanciers. Et donc j'ai voulu faire des films. Et au cours de ces années, c'était très dur de rentrer dans ce milieu sans avoir des proches. Et je voulais faire du cinéma, mais finalement j'ai multiplié les petits boulots. Et donc j'ai commencé à écrire par la suite mes premiers scénarios. Ça a été le premier scénario pour Barcelona d'ailleurs, et je me suis rendu compte que c'était un peu trop compliqué pour un premier film. Et donc j'ai eu l'idée de Metropolitan. Et ensuite en 88-89, j'ai pu le tourner.
Vous avez l'air de dire que vous vous êtes lancé dans une profession du cinéma ou du journalisme un peu par regret de ne pouvoir être écrivain.
Yes.
Oui, c'est vrai.
En somme, vous étiez un peu trop paresseux pour vous astreindre à la solitude du travail d'écrivain. Vous aviez besoin de voir du monde.
Yes.
Vous avez d'ailleurs fait un film sur la fin du disco.
Yes.
Vous étiez de votre époque.
Oui, je suis quelqu'un de très sociable ou mondain. J'aime être entouré de gens.
Et
j'aime beaucoup être entouré d'autres gens. Et ce que j'adore lorsqu'on fait des films,
vous voyez, on n'est jamais content. Never satisfied.
Seems Lady Susan will finally visit.
Lady Susan Vernon.
That woman's a fiend.
Congratulations on being about to receive the most accomplished flirt in all England.
Excuse me for arriving this way. What a delightful family pose.
Cher Laurent Bourdon.
Bonjour Paula. Bonjour.
Alors quand
tous.
Je vous ai dit Laurent, il faut absolument que tu ailles voir parce qu'on se tutoie, on va pas le cacher, hein, juste à l'antenne, on fait semblant de pas se connaître. Alors quand je t'ai dit Laurent, va voir Love and Friendship, c'est adapté de Jane Austen.
Alors qu'est-ce que je t'ai répondu ?
Tu étais vachement étonné, mais enfin, mais qu'est-ce
oui.
que c'est un film en costume ? Il y a pas de message politique, c'est pas actuel.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans ?
Oui, mais,
alors maintenant,
ah, maintenant
tu l'as
je l'ai vu.
Alors
je l'ai vu,
qu'est-ce que tu en penses ?
Ah, je vais vous le dire. Car je vais vous parler maintenant de cette production irlando-franco-néerlandaise, adaptée donc d'un court roman épistolaire que l'anglaise Jane Austen écrivit alors qu'elle n'avait pas 20 ans. Love and Friendship aurait pu tout aussi bien s'intituler, d'accord, sexe, mensonge et manipulation. Ce conte moral parfaitement immoral met donc en scène, à la fin du très raffiné 18e siècle anglais, une jeune et belle veuve, Lady Susan, alias Kate Beckinsale, qui, pour être jeune et belle, n'en est pas moins séductrice et sans scrupule avec tout le monde en général, égoïste et tyrannique avec sa fille de 16 ans en particulier. Veuve joyeuse avant la lettre, Lady Susan sait égayer son triste veuvage et entretenir sa jeunesse grâce à la fréquentation de jeunes amants sensibles à son charme. Indéniable. Il y a eu le ténébreux Lord Mainwaring, il y aura bientôt le beau et naïf Reginald de Courcy, incarné par le comédien australien Xavier Samuel, fils de Naomi Watts dans Perfect Mothers d'Anne Fontaine. Tout irait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes so British si la situation matérielle, ainsi que la réputation de Lady Susan, ne commençait à s'user. C'est ainsi que la belle doit se résoudre à trouver un riche mari pour elle, et un autre riche mari pour sa fille. Voilà donc la distinguée jeune femme, prête à tout pour parvenir à ses fins, mettant à profit des trésors apparemment inépuisables de duplicité et d'hypocrisie, avec l'indéfectible soutien de sa grande amie Alicia, alias Chloé Sévigny. Et là, c'est tout l'univers de Jane Austen que retrouveront ses fans, vous par exemple, les mêmes qui avaient fait le succès d'œuvres également portées à l'écran précédemment, telles Raison et Sentiment, ah, Emma Thompson, ou Orgueil et Préjugé, ah, Keira Knightley. Rory, mesquinerie et sournoiserie sont donc au rendez-vous de cette joute amoureuse, de ces fourbes duperies auxquelles la caméra de l'américain Whit Stillman donne tout l'allant et le charme qui convient. Et n'oublie pas notamment les origines épistolaires du roman faisant apparaître d'une façon assez originale et en surimpression la délicate calligraphie des missives reçues par les uns ou par les autres. À l'opposé de ce style vif et délié, on regrettera tout de même, vous me pardonnerez quand même, la lourdeur des présentations. Chaque personnage qui entre dans le récit bénéficiant en effet d'un portrait figé, le temps qu'apparaît son nom, son pédigré, ses liens de parenté.
Mais mon cher Laurent, ça s'appelle de la mise en scène.
Oui, enfin, il y a beaucoup de films où on comprend assez vite qui sont qui est qui, sans avoir un portrait
mais,
comme
attendez,
ça,
lourdeau. Attendez, là, je vais le défendre. Hein. Ça nous vient du 18e. Et bien, lorsque ces personnages rentrent, arrêt sur image, c'est comme un portrait en pied. Et oui. Je trouve ça formidable, contrairement à vous.
Et
continuez.
Et bien, voilà, tous les goûts sont de la nature. Moi, je trouve que c'est un petit peu lourdingue dans ce monde où, au contraire, tout est raffiné. Justement, tout en dentelle et en fine tasse à thé. Petite parenthèse donc, revenons à ce réalisateur. 18 ans avant Love and Friendship, Whit Stillman avait déjà offert à Kate Beckinsale et à Chloé Sevigny l'occasion de jouer le rôle de deux bonnes copines, mais dans un genre assez différent, le film que vous avez cité, Dernier jour du disco, sorti en 98. Ici, point de disco, mais tout le charme de cette Angleterre apparemment aussi prude que pluvieuse, dans laquelle pourtant, sous les ors d'imposantes demeures, battent des cœurs d'autant plus fougueux qu'ils sont corsetés au propre comme au figuré et que l'expression de leur débordement est parfaitement canalisée par le strict mode de vie de la gentry que ne cessera de mettre en scène la romancière et toujours du point de vue des femmes. Elles sont belles et rebelles et jugent déjà archaïque la société patriarcale qui leur impose un destin domestique confiné entre petits et grands salons. Destin dont veut s'affranchir Lady Susan, l'une des multiples figures de femmes austéniennes, annonciatrice d'un mouvement dont le nom même à cette époque reste à inventer, le féminisme.
Bah vous dites ça, et bah il faudra vous y faire mon petit Laurent.
Bah oui, hein. Oui, oui, bah oui.
Merci. Stillman, comment on fait pour rendre aussi moderne, aussi contemporain, aussi gai et charmant un film finalement qui nous met en scène des personnages du 18e siècle?
Well, I think one factor is
that the second half of the 18th century is very close to us. Second half of the 18th du 18e siècle est très proche de nous. La modernité, l'intelligence, l'esprit est du 18e siècle. Et donc il y a quelque chose de moderne qui se superpose à ce passé. Ensuite, c'est le jeu des acteurs.
Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous là-dessus, Whit Stillman, parce qu'au contraire, ce que l'on voit dans ce film-là, et tout à l'opposé de notre époque. Notre époque, c'est celle où, d'abord, le sexe est une chose extrêmement facile. Une femme n'a pas besoin d'intriguer pour continuer à exister dans la société, à travailler. Elle n'a pas besoin d'être une bitch, une salope, pour arriver à ses fins. Et c'est une époque, le 18e siècle, où l'hypocrisie sert, finalement, d'escabeau social. Ce n'est plus du tout la même chose à notre époque.
Alors, je pense qu'il y a quand même des choses qui ressemblent beaucoup à l'époque. On se demande, par exemple, si des femmes comme Suzanne Vernon existent aujourd'hui, et si on va à Palm Beach, en Floride, si on va en Californie, à Londres ou à Paris, on trouve beaucoup de femmes qui ont trouvé la fortune en usant de leur charme.
Oui, mais alors, parlons un peu de Lady Suzanne. C'est une caricature de bonne femme. Elle est affreusement calculatrice. Elle est prête à assurer sa fortune en faisant le malheur de sa fille dont elle ne s'occupe pas. Vous, il m'a semblé, Whit Stillman, que vous êtes un cinéaste féministe. Vraiment, je le pense. Hein. Par exemple, un film comme Damsel in Distress, vous adorez les femmes. Que vous inspire le personnage central donc de Love and Friendship?
Well, I do like extravagant female
characters. J'aime les personnages de femmes extravagants. Je trouve que ce sont des femmes drôles, mais j'ai découvert qu'elles ne sont pas toujours drôles, des fois elles sont simplement extravagantes. Et dans ce cas précis, ce personnage est très charmant, c'est une femme très drôle, qui est assez délicieuse, on aime passer du temps avec elle malgré ses mauvaises intentions.
Vous savez que, curieusement, J'ai vu dans votre film, dans ce roman de Jane Austen, quelque chose qui a à voir avec Phèdre. D'abord, il y a une mécanique comme ça, des sentiments, quelque chose de très rapide, et puis il y a des scènes absolument dramatiques. Par exemple, l'homme à qui Lady Susan veut fourguer sa fille, en quelque sorte, parce qu'il est riche, est un parfait crétin.
Ouais.
Et il est d'une drôlerie irrésistible. C'est comme une espèce de mécanique à déclencher le rire.
Yes, that's true.
Oui, c'est vrai.
And not that much of him is in the novel, so there had to be some scenes.
Il n'est pas présent comme cela dans le roman.
During the read-through, what we call the table read.
Donc, on faisait une lecture du scénario et on s'est rendu compte qu'il était très drôle et donc on a fait de plus en plus de scènes avec lui qui n'étaient pas prévues au départ.
Churchill, that's how you say it. All together like that. Churchill. Oh, well, that explains a lot. You see, I'd heard church and hill, but couldn't find either. All I could see was this big house. Fine name, Churchill.
Alors, ce qui me frappe aussi, c'est que tous ces gens occupés de leurs sentiments, de leurs intrigues, sont finalement des nobles. C'est-à-dire qu'ils vivent absolument coupés de la réalité sociale et économique de l'Angleterre du XVIIIe siècle. Et ils ressemblent aussi, toute proportion gardée, aux liaisons dangereuses, vous savez, des personnages des liaisons dangereuses, finalement, qui ne se doutent pas qu'ils vont très bientôt être chassés de la scène et du pouvoir.
Il y a quand
même une différence parce que c'est le Royaume-Uni. Et certains des personnages sont plus bourgeois qu'aristocrates. Et il y a des gens que je connais, des aristocrates un peu snobs, qui disent qu'ils ne travailleraient jamais dans la banque, mais en fait ils ont une grosse maison parce qu'ils travaillaient dans ce milieu.
With photographs and magnetic tape, we capture pretty animals in cages, pretty flowers in vases, and rapture. And doesn't the tree write great poetry, doing itself so well? Do you blame Monet, his gardens in Giverny? He captures. Lovely Basho, his plunking pawns and toes, and rapture, the fate of Kurt Cobain, junk coursing through his veins, and young Virginia. Color, sound, and words. Is it a blessing or a curse? In rapture.
Whit Stillman, il y a un paradoxe dans la vie et dans l'œuvre de cette femme, Jane Austen, c'est que d'abord elle est obligée de publier sous un nom masculin, n'est-ce pas ? Elle ne signe pas ses livres de son nom.
Non, alors elle a publié de manière anonyme, mais c'était signé par une lady.
Et paradoxalement, elle va devenir beaucoup plus célèbre au XXe siècle qu'au début XIXe à cause du cinéma.
Oui, mais je pense que les femmes ont dominé le roman en tant que lectrice et en tant que romancière à cette époque. Je pense que Charlotte Bronte était sa première critique vraiment dure et Walter Scott était son premier défenseur et le prince régent.
Jane Austen est née dans une famille, le père était recteur, et il va inciter ses filles à lire beaucoup. Hein. Yes. Donc elle grandit dans une atmosphère cultivée, aisée.
Ses parents n'étaient pas aisés. En fait, ils tenaient une école, et donc ils n'étaient pas très riches.
Jane Austen and her sister
et Jane Austen et sa sœur n'avaient pas reçu d'éducation officiellement, mais elles ont grandi dans un univers instruit.
Comment expliquez-vous, Watt Stillman, finalement cette éclosion de talent de romancière? Il y en a beaucoup de la stature de Jane Austen en Angleterre précisément, plus qu'en France du reste, hein.
Je ne sais pas vraiment si c'est le cas. Je ne généraliserai pas forcément. Je ne connais pas assez la littérature d'autres pays pour le dire. En général, il y a un romancier qu'on trouve dans chaque pays. Je sais que j'ai des amis qui aiment beaucoup George Sand. Je dis souvent que George Sand et moi, on se ressemble beaucoup. On aime beaucoup marcher dans les rues de Paris.
Dressed as men.
Habillé en homme.
But you are a man.
I know.
Mais je sais. Est-ce que je me trompe?
George Sand et moi, on se ressemble beaucoup parce qu'on aime beaucoup marcher dans les rues de Paris habillé en homme.
Watt Stillman, je voulais vous demander, est-ce que donc cette admiration que vous avez pour Jane Austen, pour la littérature britannique, ressemble finalement, je ne sais pas moi, à quelque chose de typiquement américain vis-à-vis de la vieille Europe? L'élégance, la décadence, la courtoisie, le langage?
Il y a quelque chose qu'on a touché du doigt dans notre film précédent.
Il y a un professeur qui donne un cours de tradition
dandy en littérature dans Damsel in Distress.
It's mostly English, it is true.
Et donc c'est vrai que c'est très anglais.
But I think it also passed over to the United States.
You know, mais ça a été transmis aussi aux États-Unis. Et quand Jane Austen est née en 1775, les colonies britanniques sur le continent américain, c'était le même pays, il y avait le même patrimoine. Ma famille venait d'Angleterre. Ils sont venus au XVIIe siècle, il y avait beaucoup de liens entre ces deux pays. Et donc ce n'est pas si loin de nous.
Mais
il y a aussi un côté français. C'est juste que je le connais moins. Par exemple, mes amis lisent Alfred de Musset.
Je vous remercie beaucoup, Watt Stillman, pour nous avoir tellement charmés, amusés, éblouis, pour les agissements de cette petite société dans le monde de Jane Austen. Alors, Love and Friendship sera sur nos écrans à partir du 22 juin. Et je vous remercie aussi beaucoup, Loïc Hoff, pour avoir traduit les propos de Watt Stillman. Thank you very much.
Thanks very much.
Paula Jacques sur France Inter.
Bonjour, chère Auriane Joncourt, comment ça va?
Mais bonjour, Paula, ça va bien.
Alors, bravo, hein, Transfuge à 10 ans maintenant. Vous fêtez donc l'anniversaire en réalisant un numéro spécial que vous ne m'avez pas apporté.
Mais non.
Que vais-je vous demander, Auriane? Qu'avez-vous fait dans ce numéro?
Peut-être que nous n'allons parler de rien. Non, mais je ne voulais pas apporter parce que ça a été un très grand travail. Donc, il va sortir à la fin de la semaine et il va rester tout l'été en kiosque. Et je vais vous expliquer pourquoi ça a été un très grand travail et donc qu'aujourd'hui, il n'est pas encore prêt. C'est qu'on a sélectionné 100 personnes qui ont fait, qui font, qui feront Transfuge. C'est-à-dire écrivains, réalisateurs, puisque nous sommes littérature et cinéma, écrivains, réalisateurs, mais aussi ceux dont on parle moins, éditeurs, producteurs et journalistes qui nous ont soutenus au cours de ces 10 ans. Et donc évidemment, le grand choix, ça a été de choisir. Le grand travail, ça a été de choisir, parce que 10 ans, 100 numéros, une trentaine d'œuvres traitées dans chaque numéro, ça a été un casse-tête terrible, on s'est arraché les cheveux, enfin bon. Et donc, on a quand même essayer, à travers ses personnalités, donc à travers ses œuvres, de retracer un peu notre histoire.
C'est-à-dire, vous faites quoi? Vous faites un portrait de tous ces 100 personnes que vous estimez utiles et indispensables à votre journal?
Oui, c'est-à-dire que ce sont des écrivains qu'on a mis en avant, qu'on a mis en couverture. Je pense par exemple à un écrivain new-yorkais qu'on adore qui s'appelle Gary Steingart,
oui.
Qu'on a mis deux fois en couverture, c'est assez rare. Mais il y a aussi, par exemple, le premier qu'on a mis en couverture, c'est Imre Kertész. Bon, ben voilà, ça fait partie un peu de notre histoire, puisqu'on était donc au départ une revue de littérature étrangère et cosmopolite. Il y a aussi William T. Volman qui a écrit dans nos pages au début, et puis donc tout ça on le raconte, et puis qui aujourd'hui est devenu un immense auteur américain, mais aussi Amos Oz, Laszlo Krasznahorkai, tous
vous
ces auteurs.
Oriane, juste, vous connaissez mon mauvais esprit. Est-ce que c'est pas un numéro d'auto-congratulation?
Si, si, sans doute, mais vous savez, c'est la première fois qu'on le fait.
Absolument.
Donc si on le fait tous les 10 ans, je me dis après tout...
Est-ce que, voilà, je me demande, est-ce que vous vous souvenez du tout premier numéro où vous étiez à l'origine de ces aventures, de cette aventure? Dans quel état? Vous n'aviez pas d'argent? Vous pensiez que... Comment ça allait se passer?
C'était, vous savez, au début c'était une revue, donc on a une toute petite ambition. On se dit on va faire une revue et on va parler de littérature étrangère parce qu'on avait l'impression, à tort ou à raison, que dans la presse on ne parlait pas tant que ça de littérature étrangère. Et donc on s'est dit on va parler des auteurs qu'on aime. Voilà, c'était un petit groupe. Et puis petit à petit, année après année, on a rencontré des gens qui nous ont fait confiance. C'est aussi une façon de les remercier, de leur rendre hommage, parce que vous savez ce que c'est quand on lance quelque chose comme ça. Il y a les gens qui vous tendent la main, et puis il y a les gens qui n'ont pas du tout envie de vous tendre la main, que ça dérange un peu, et qui ont leur système établi. Donc c'était une façon de défendre peu à peu la littérature qu'on aime, et puis on est devenu mensuel, et puis on s'est intéressé au cinéma, et voilà comment ça s'est passé.
Oriane Joncourt, je souhaite très longue vie à Transfuge, hein. Et voilà, notre partenariat va s'arrêter malheureusement parce que Cosmopolitan le s'arrête aussi.
Mais
à la rentrée,
Cosmopolitan
ne sera pas là. Alors je vous souhaite quand même d'atteindre au moins la quarantaine. On se revoit quand votre numéro aura 40 ans. D'accord Laurent, vous serez là?
Ah oui, bien sûr.
Je compte sur vous.
C'est bien d'arrêter ces 10 ans et en même temps de sortir le 100e numéro. Vous avez bien calculé votre coup.
Mais oui,
coup, hein,
et c'est un hasard, c'est un hasard.
Merci, merci à tous. Merci à vous, Marion Van Redergem, d'être venue nous parler de La Dangereuse, écrit avec Lubna Abidar, qui est paru chez Stock. Merci, Laurent, pour votre chronique pour Love and Friendship, réalisée par Will Sisman sur les écrans le 22 juin. Alors, cette émission s'achève avec la programmation musicale de Jean-Baptiste Audibert, que je vais vous annoncer. Yeli Yeli Ashnou, P.G. Harvey de Community of Hope et Laura Verse, Rupture. Cette cosmopolitaine est disponible à la réécoute et en podcast sur le site de France Inter. Vous y trouverez également des références sur tout ce que vous voulez savoir. Merci à l'équipe de Cosmopolitaine, Marie-Madeleine Rioupoulos, Laurent Bourdon, Fanny Leroy, Stéphane Ronxin, qui a réalisé aujourd'hui cette émission avec Michel Soulier, parti en vacances. Merci à nos techniciens Florent Beauvallet, Julien Dumont. Dimanche prochain, les amis, je vous propose d'écouter la rencontre enregistrée au Théâtre de l'Odéon le 6 juin dernier. C'était Exil, destin d'écrivain consacré à un personnage extraordinaire, le libertin, escroc, philosophe, diplomate, séducteur, impénitent Giacomo Casanova, avec l'éclairage vraiment fin et subtil de Chantal Thomas et des textes lus par Christophe Brault. La semaine prochaine, donc vous écouterez Casanova. Et moi, je vous laisse là tout de suite avec Fabienne Chauvière. Elle reçoit pour ses aventuriers Sylvie Dufour, qui est chercheuse dans le domaine de l'aquaculture.